écoute.
Aligro.ch, bienvenue à tous les gourmands. Votre marché Aligro à Matran vous présente le 10-14 de l'été.
Je vous souhaite déjà la bienvenue. Dans un instant, Thierry Savary va nous rejoindre accompagné de deux invités pour parler de la Gordon Bennett 2016 et précisément de l'équipe Fribourg Challenge. On les retrouve juste après ceci.
Le 10-14 de l'été.
Bonjour Thierry Savary.
Bonjour Amaëlle.
Je sais pas vous, mais moi, quasiment chaque matin quand je me lève comme ça au loin devant les Préalpes, je vois une montgolfière.
C'est vrai.
C'est très beau.
Vous regardez s'il y a des ballons.
Ouais.
Et vous envoyez.
Ah, mais j'en vois tout le temps. Il y en a un qui a posé juste à côté de chez nous l'autre matin.
En plus.
On est en plein dans les ballons.
Bon, bah c'est bien.
Ils volent très tôt.
Oui, ils volent tôt ou tard, ouais. Hein, j'imagine. Ouais, on va pouvoir en parler justement. On parlera pas de montgolfière, hein, mais de ballons à gaz précisément. Mais enfin, ce sont des ballons qui sont quand même comme ça majestueux dans les airs. Et c'est vrai que le temps, j'imagine, s'y prête aussi, particulièrement ces temps-ci, avec la chaleur, les thermiques, etc. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais enfin, nos invités vont pouvoir rectifier. Ils sont deux pour parler effectivement de la Gordon Bennett édition 2016 et de notre équipage Fribourg Challenge qui vont essayer une fois de plus de briller, voire même de remporter cette édition 2016 qui se tient en Allemagne, à Gladbeck, plus précisément au milieu d'un champ, de nulle part, comme ça, entouré d'arbres, dans la forêt. Ça va être extrêmement glamour aussi, mais surtout c'est la compétition en soi qui est extraordinaire. Et là, il faudra lever les yeux, particulièrement au départ, parce qu'après, je pense que les ballons nous échappent quelque peu. Avec nous ce matin, Jacques-Antoine Bénard. Jacques-Antoine, bonjour.
Salut Thierry.
Chef du PC Course, justement, de cette édition, et de l'édition précédente également, de l'équipage Fribourg Challenge. Et Philippe Gex, bonjour Philippe.
Salut.
Philippe, qui lui est aiguilleur du CL, ou contrôleur aérien, on peut dire les deux choses, je crois.
Exactement.
Un peu de choses près. Donc, qui lui s'occupe du trafic, hein, du trafic aérien, de regarder si les routes sont possibles, ouvertes ou autres, j'imagine. Mais ça, on en parlera parce que c'est vrai que c'est non seulement un job intéressant, mais aussi un job essentiel par rapport à une course comme celle-là, pour simplement pouvoir définir les endroits où les ballons peuvent passer. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Jacques-Antoine, tout d'abord, félicitations, hein, parce que c'est vrai que Jacques, tu es champion d'Europe cette année, une fois de plus, de dirigeant.
Ouais,
non pas de montgolfière ou de vol ou de ballon à gaz, mais de dirigeable.
Voilà, dirigeable air show qui se sont passés aussi en Allemagne, au sud de Munich, donc fin février. C'était le premier championnat d'Europe. Et puis, effectivement, on a remporté. Bon, un peu sur le fil, mais on l'a quand même remporté.
Sur le fil?
Ouais, la concurrence était dure. Ouais,
d'accord. Il n'y a pas un fil quand même, comme dans les courses, les marathons ou autres, où on doit franchir la ligne.
Les points étaient très serrés.
Ouais. Avec un nouveau dirigeable, je crois.
Avec un nouveau dirigeable.
Ouais, qui fonctionne bien.
Qui va très bien.
Ouais. Donc, toujours dans les airs. Je crois que tu as volé cette année une cinquantaine d'heures, ce qui en soi est déjà pas mal.
Ouais, avec le dirigeable, un peu plus de 50 heures, ouais. Plus le ballon, etc. Donc, montgolfière, ouais, effectivement. J'ai fait, je pense, une centaine d'heures depuis une année.
D'accord. Philippe, tu voles aussi?
Oui, nettement moins, puisque des avions qui font un petit peu plus de bruit.
D'accord. Du côté des Cuvillons, des Panis ou autres?
Ah, je vole à Epagny sur les petits avions qui sont là-bas.
Oui, Epagny qui sera le terrain de jeu, hein, de la prochaine Gordon Bennett, cette fois-ci en 2017 précisément. Donc tu seras chez toi quelque part.
Ah ouais, non, je vais à la maison.
Oui, c'est plutôt bien. Alors tout à l'heure, je disais que, enfin, on parlait des ballons qu'Amel voit tous les matins. C'est vrai que les conditions sont plutôt bonnes ces temps-ci.
Alors oui, alors ces temps sont même parfaites parce que on a des gros sauts de pression qui se centrent sur la Suisse. Donc peu de vent dans les basses couches, même en altitude, peu de vent, mais par contre un ensoleillement incroyable, ce qu'on a malheureusement pas eu tout ce printemps où on a quasiment pas pu voler, ni avec les dirigeables, ni avec les montgolfières, ni les ballons à gaz. Donc vraiment, on est un peu tous handicapés à ce niveau-là. Mais maintenant, ça cet été, depuis le mois de juillet, ça se rectifie, puis on en a bien compte.
Je parlais de thermique tout à l'heure. Là, c'est une période où les thermiques sont plutôt.
Ouais, alors, comme tu disais des bêtises, effectivement.
Ah, bon,
des
bêtises, voilà, exactement.
Non. Alors, il faut savoir que dans la montgolfière, le dirigeable ou le ballon, on ne cherche pas du tout les thermiques.
D'accord.
Les thermiques sont uniquement.
Pour les parapentistes.
Exactement, pour les parapentistes, les planeurs, etc., ceux qui font du vol dynamique libre. Nous, on n'est pas du tout en vol dynamique, on est en vol statique. Donc, c'est plutôt un handicap pour nous, les thermiques. On les évite. C'est pour ça que Amaël voit des montgolfières tôt le matin ou tard le soir, mais pas la journée quand il y a les thermiques.
Ben voilà, comme ça on a appris quelque chose.
C'est vrai, j'ai moi je m'avance pas. Ouais.
J'ai dû faire trop de parapente, ça doit être ça, à mon avis. Bon, voilà pour ce qui est des dirigeables aussi. Juste un petit clin d'œil, on a vu l'autre jour, il y a un énorme projet de dirigeable, un Airlander 10 je crois, enfin un truc complètement fou, qui est plus gros même qu'un Airbus A380 d'après ce que j'ai pu voir.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Ça sont des choses...
Ah, c'est génial, si vraiment ça peut partir dans ce sens-là pour le fret, pour beaucoup de choses, ça peut être un atout. Autant au niveau écologique qu'économique, ça peut être... si le développement part là-dedans, ça va être super. Quoi.
Parce qu'on consomme beaucoup moins, j'imagine.
Ah ouais, une fois que c'est gonflé, on ne consomme plus rien, quoi, quasiment. C'est comme le ballon à gaz, c'est très écologique. C'est, voilà, c'est, ça n'a rien à voir avec un avion. Quoi.
D'accord. On revient alors sur la Gordon Bennett avec, non pas des montgolfières, hein, qui sont des ballons à air chaud, mais plutôt des ballons à gaz. La différence, Jacques-Antoine ?
Alors, comme tu l'as dit, l'air chaud dans la montgolfière, donc c'est l'air chaud étant plus léger que l'air froid, elle nous fait monter. Et le ballon à gaz, hydrogène ou hélium, et puis vu que c'est aussi un gaz qui est plus léger que l'air, il nous fait monter aussi. Donc, similaire, mais pas tout à fait, parce que la montgolfière, elle fait des vols de quelques heures, parce qu'il nous faut des bouteilles de gaz pour chaque fois remettre de l'air chaud dedans. Or que le ballon à gaz, lui, est gonflé une fois, et puis on va jusqu'au bout de l'autonomie, donc ça peut durer 70, 80. Voire 90 heures pour les plus grands.
Alors l'autonomie, elle est en lien avec le gaz, bien sûr, mais aussi avec les bacs, avec aussi les sacs de sable que l'on emporte pour pouvoir finalement monter, descendre en fonction, justement, non pas des thermiques, mais des courants, j'imagine, qui nous entraînent.
On utilise ces 1000 mètres cubes d'hydrogène pour pouvoir monter, et puis en contrepartie, pour pas monter trop non plus, puis pour avoir de l'autonomie, on le charge en sable. Donc tout ce qu'on peut prendre en sable ou en eau, eh bien c'est du gain, on va dire c'est du fuel pour aller le plus loin possible. Quoi.
Et lorsqu'il s'agit de redescendre ou de remonter, on lâche un peu de sable, lorsqu'on veut redescendre, on enlève un petit peu de gaz.
Exactement, c'est exactement ça.
Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus de sable et plus de gaz.
Exact, ça c'est là qu'on atterrit. On arrive à zéro, puis il faut atterrir.
Ouais. Par contre, on va beaucoup plus haut qu'avec une montgolfière, je pense.
Pas forcément, non. Pas forcément. On va pas beaucoup plus haut parce que si on irait trop haut, vu qu'il y a moins de pression en altitude, le ballon gonflerait trop et automatiquement, ça s'échapperait par le ballon pour une question de sécurité, évidemment, parce qu'autrement, il éclaterait. Donc, en allant très haut, on perd de la quantité d'hydrogène à l'intérieur, ce qui va aussi nous diminuer la longueur du vol. Plus on va haut, moins on pourra voler longtemps.
D'accord.
Plus on vole bas, plus on pourra voler longtemps.
Donc on essaye de se stabiliser.
Exactement, c'est un équilibre vraiment en trouvant les courants les plus rapides, mais pas forcément en haute altitude.
D'accord, alors ça c'est pour ce qui est de la technique, hein, on va dire, du ballon. Puis après, il y a bien sûr le routing qui est défini quand même par les courants, par les vents, par la météo. Et aussi, je pense, un tant soit peu, par les endroits où on peut ou ne pas passer ou ne pas passer.
Oui, donc sur la trajectoire que les météorologues trouvent, au niveau du contrôle aérien, on va chercher deux choses principalement. C'est à quel moment on sera dans un espace aérien contrôlé et quand c'est qu'on sera dans un espace aérien qui n'est pas contrôlé. L'espace aérien pas contrôlé, c'est assez simple. On y va quand on veut, on fait exact tout ce qu'on veut dedans, il n'y a aucune contrainte. Et puis les espaces aériens contrôlés, c'est là un petit peu que ça pourrait plus bloquer. Donc c'est où on trouve les avions de ligne, donc autour des gros aéroports ou en dessus d'une certaine altitude. Et ça change évidemment en fonction de chaque frontière qu'on passe, c'est pas la même chose. Et puis en fonction de la taille des aéroports aussi, ça peut poser plus de problèmes.
Exactement, lié au trafic.
Oui, alors nous, le boulot des contrôleurs aériens avec OPC Course, c'est on analyse la trajectoire, on regarde quel niveau on va monter. Et puis après, on va prendre contact avec les contrôleurs aériens de l'espace qui est concerné, et puis on va leur poser des questions. D'abord savoir si c'est possible, si on a un oui de principe, un non. On va leur expliquer la chose. Ils sont déjà au courant qu'il y a une course de ballon. Ça, c'est l'organisation qui envoie l'information à tout le monde. Donc ils savent qu'il y a une course de ballon qui pourrait passer chez eux. Et puis après, on négocie en direct avec eux. Et l'avantage d'avoir des contrôleurs aériens qui font ça, c'est qu'on parle exactement le même dialogue entre nous. Donc c'est très rapide, on connaît leurs contraintes. Et il n'y a pas besoin d'un traducteur au milieu. Donc, notre boulot, c'est vraiment de poser des questions et puis d'essayer d'avoir le passage.
Vous parlez anglais, je pense, la plupart du temps.
Oui.
Oui. Et il y a des terminologies qui sont définies aussi. Votre langage, on va dire.
Exactement, c'est une langue aéronautique.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des espaces aériens qui sont contrôlés, d'autres pas contrôlés, justement?
Donc, on a créé des espaces aériens contrôlés, c'est pour garantir la sécurité des avions de ligne. Donc, c'est justement pour pas que tout le monde aille dedans et fasse n'importe quoi. Donc, on peut y aller, il n'y a pas de souci, il faut juste demander une autorisation. Et suivant le trafic qu'il y a, ça dépend à quelle heure on passe, ça peut être plus compliqué de l'obtenir. Mmh. Mais c'était justement pour garantir la sécurité de tous les avions de ligne, c'est pour pas avoir un trafic trop mixte à l'intérieur.
Et quand on regarde, il y a aujourd'hui des applications qui nous permettent de voir un petit peu le trafic aérien, etc. Des fois, c'est d'une densité extrême. On se dit, mais c'est pas possible. Tous ces avions qui sont en vol en même temps, à peu près dans les mêmes espaces.
Ouais, mais on voit pas l'altitude. On voit qu'ils sont au même endroit, mais il faut après penser en trois dimensions. Donc il y a du monde, oui. Ça, c'est sûr qu'il y a du monde, mais il faut penser en trois dimensions. Puis là, ça fait un peu moins peur quand on regarde.
Ah oui, d'accord. Cela dit, il y a quand même, semblerait-il, de plus en plus de monde aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une évolution de ce point de vue-là?
De plus en plus de monde...
Dans les cieux. De plus en plus de vols, de plus en plus d'avions.
Oui, et puis ça peut créer des bouchons, comme sur les routes. Donc,
ah, carrément.
Oui, ouais, on sait. Donc, chaque vol de ligne fait un plan de vol. On sait à quel moment il va passer, à quel endroit. Et si on détecte... trop d'avions en même temps au même endroit, on va mettre des restrictions. Puis c'est là que, quand vous êtes dans votre avion, puis on vous dit course contrôle aérien, vous avez 2 heures de retard. C'est justement pour éviter soit des bouchons à l'arrivée, trop de monde à l'arrivée, ou éviter un secteur en route où il y aurait trop de monde. Donc là, il y a d'autres solutions. C'est passer par ailleurs, passer en dessous. Mais oui, alors il y a des régulations. Il y a des heures de pointe.
Oui, alors c'est aussi un boulot, alors j'imagine, relativement stressant quand même, parce que finalement vous êtes à flux tendu, toujours en train de contrôler, de regarder, et ben surtout il faut avoir les bonnes indications et donner les bonnes indications.
Oui, alors c'est réputé stressant, c'est très exigeant, pardon, mais c'est passionnant.
Ah. Oui, c'est un métier passion aussi. Hein. Oui, ben j'imagine, et on parle de vol de ligne, mais c'est vrai que le ciel est occupé par d'autres aussi types d'engins volants. Il n'y a pas que les avions de ligne.
Non, alors, vol de ligne, vous avez tout ce qui est aussi les avions privés, donc vol de business jet, ça, il y en a beaucoup aussi. Après, vous avez des planeurs qui veulent monter assez haut, vous avez des espaces aériens militaires, vous avez tout un mix de tout ça qu'il faut séparer.
Mmh. Donc, pas évident. Enfin, quoi que, ça fait partie du job, quoi.
Voilà, exactement. Ouais, ça peut paraître pas évident, des fois c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est faisable.
Quelqu'un qui dit parfois des bêtises, c'est pas évident. C'est ça. Mais pour quelqu'un qui est pro, c'est son job, tout simplement. C'est vrai que le ciel, c'est un terrain de jeu aussi assez intéressant. Il y a des espaces aériens qui, comme on le disait tout à l'heure, sont limités aussi. Il y a même des espaces aériens qui sont interdits. Ça fait aussi partie, bien sûr, des choses non seulement que vous devez maîtriser, mais qui vont rentrer en ligne de compte pour une course comme la Gordon Bennett.
Oui, donc là, on imagine si on part du milieu de l'Allemagne et puis qu'on a un vent qui nous pousse vers l'est et on arrivera vite, on traversera la Pologne et là on arrive à la Biélorussie et c'est celui qui posera plus près de la frontière. Donc c'est impossible d'aller plus loin. On a une carte qui est régulièrement mise à jour des pays qui sont ouverts ou fermés à ça et c'est interdiction totale d'y aller. De toute façon, si on y va, on serait disqualifié de ce point de vue-là. Et après, pour la sécurité des équipages, faut pas y aller, quoi.
Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver au pire? Qu'on nous tire dessus ou je ne sais pas?
C'est ce qui est arrivé, Jaco, tu te souviens quand c'était?
Oh, pas exactement, mais il y a une vingtaine d'années. Même plus, trentaine d'années, je crois.
Il y avait 3 concurrents, je dis peut-être des bêtises, mais plusieurs concurrents qui avaient passé la frontière biélorusse. Et il y avait un équipage américain qui s'était fait descendre par un hélicoptère. Ils n'avaient pas le droit d'être là.
Ah bon? Ah
ouais. Donc on n'y va pas.
Sympathique. Hein. Donc là, il faut être extrêmement prudent. Mais c'est pour ça finalement que la course s'arrête aussi et que les pilotes, la plupart du temps, redescendent. Parfois un peu en catastrophe aussi, parce qu'ils s'approchent rapidement d'une frontière qui est exclue. Cette année, alors, la Gordon Bennett, le départ se fait en Allemagne, à Gladbeck, au milieu de l'Allemagne à peu près. Là, il y aura, j'imagine, beaucoup de possibilités, beaucoup de choix aussi stratégiques en termes de routing. Où vont-ils aller? Au nord, plutôt au sud? Jacques-Antoine, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà des schémas en tête? Enfin, il y a plusieurs, j'imagine, schémas.
Alors, il y a plusieurs schémas, il y en a 3 qui sont intéressants, effectivement. Mais dire maintenant lequel serait le meilleur, c'est impossible, parce que, en fait, ça va se déterminer les jours précédents ou les jours même de la course en fonction des bulletins météo, puis nous, mais, du travail de nos trois météorologues.
Exact.
Donc, effectivement, c'est toujours le Cap Nord hein, qui reste un point culminant sur le Nord. Au Sud, bah, ce sera, en partant de Gladbeck, je pense que ce sera Gibraltar, à mon avis, le plus extrême. Si on dépasse le détroit puis qu'on va poser en Afrique, eh bien on est disqualifié de toute façon parce qu'on n'ose pas sortir du continent européen du moment que la course est en Europe. Donc ça c'est un point à savoir. Et puis après ben il y a une autre option, c'est aussi côté sud-est hein, si on veut bien, où on pourrait aller jusqu'en Grèce, etc. Quoi. Mais il faut voir ça les jours avant. Maintenant, c'est impossible à déterminer.
Absolument. Ce qui sous-entend aussi que pour les contrôles aériens, il va falloir être très réactif aussi dans les derniers jours avant la course, voire même pendant la course, tout le temps.
Bon, on a l'avantage d'avoir un ballon qui se balade lentement. Donc, ça nous laisse du temps pour réagir.
Pour envie de faire un téléphone.
Ben, c'est aussi un problème parce qu'on ne peut pas donner une heure très fixe d'arrivée pour traverser l'espace. Et puis, il y a tellement de paramètres qui changent ou bien... d'humeur du contrôleur aérien en poste à ce moment-là, ça peut changer.
Ah oui, il y a des facteurs humains en plus qui entrent en ligne de compte.
C'est ce qui est compliqué, c'est qu'on peut... On sait plus ou moins où on va, on ne sait pas précisément à l'avance. À court terme, on peut dire assez précisément, mais longtemps à l'avance, on ne peut pas. Et puis, on n'a aucune influence sur la décision finale. Donc si on nous dit oui, puis qu'au final, on dit finalement, ce n'est pas possible... il y a trop de trafic à ce moment-là, ou on a une urgence, ou quoi que ce soit, on pourra appeler tout ce qu'on veut, leur demander tout ce qu'on veut, ce sera non, et puis là, il faudra qu'on pose, si vraiment on n'a pas de chance, soit qu'on change de stratégie vraiment à la dernière minute.
Change de route.
Ça serait le point.
Bah oui, ce qui peut engendrer des retours en arrière, enfin différentes choses aussi, qui ne feraient pas progresser l'équipage, on va dire. Hein, quoi que l'on sait. On reviendra tout à l'heure sur ces problèmes de routing aussi. Je rappelle que la Gordon Bennett, c'est une course, c'est, on pourrait dire le championnat du monde, hein, en quelque sorte des ballons à gaz. Un certain nombre d'équipages qui viennent de différents pays, hein, du monde entier. L'année passée, je ne sais plus, il y avait 18 équipages, je crois, à peu près.
16 ou 18 cette année, il y a bien plus. Hein, il y a 24 concurrents. Des Australiens, des Américains, Anglais.
Il n'y avait pas d'Australiens l'année passée.
Non, il n'y avait pas d'Australiens, mais cette année, il y a un équipage australien, donc 24 concurrents, puis pas des moindres, parce que c'est vraiment tous des bons pilotes. Quoi.
Exactement, donc la concurrence sera rude.
Tout à fait.
Oui, comme elle l'était aussi l'an passé, hein, mais cette année, on rajoute encore quelques équipages. Le but, c'est de décoller d'un endroit, en l'occurrence, cette année, c'est Gladbeck en Allemagne, et c'est d'aller le plus loin possible, sans se poser, bien évidemment, hein, ça peut durer jusqu'à 3 jours en fonction de l'autonomie, en fonction des routes choisies. Et celui qui va le plus loin, on pourrait presque dire en ligne droite, hein, j'imagine.
Alors c'est exactement ça. Hein. Celui qui passe 3 jours en l'air, puis qui va jusqu'au Cap Nord, et puis pour dire des conneries, qui reviendrait, eh ben, c'est pas lui qui était le plus loin, c'est vraiment la ligne droite. Hein. C'est celui qui se pose au point le plus extrême du départ en tirant vraiment une ligne droite.
Absolument. Avec une autonomie qui est donnée, hein, qui est le 1000 mètres cubes de gaz et des sacs de sable qui vous permettent aussi de réguler un peu.
Alors les sacs de sable, eux, sont pas réglementés. En fait, plus on va pouvoir prendre de sable, plus on aura d'autonomie. Mais il faut savoir que plus on met de sable, ça veut dire qu'il faut diminuer le poids à l'intérieur. Donc nos pilotes sont à peu près à l'eau et au pain sec depuis environ cet hiver. Et puis voilà, c'est l'économie du poids à bord. Pour pouvoir garder le maximum de sable dans la nacelle.
Absolument. On se souvient de l'an passé, hein, les pilotes auraient pu aller un poil plus loin, mais il manquait un peu de sable, enfin ça devenait dangereux aussi. Donc ils ont dû prendre la décision d'atterrir à un moment
donné.
Absolument. Ouais. Et pour quoi, on va dire, peut-être un demi-sac de sable finalement.
Ouais, à peu près, ouais, c'est à peu de choses près, parce que je crois que ça s'est joué à 17 km ou quelque chose comme ça, donc c'était, ouais, effectivement, un demi-sac de sable.
Je vous rappelle que notre équipage fribourgeois, un Fribourg-Freiburg Challenge, était arrivé troisième l'an passé. On se retrouve d'ici quelques instants, on continuera à parler, bien sûr, de la Gordon Bennett, édition 2016. Vous voulez m'envoyer quelque chose?
Ah ben voilà. Aligro.ch, bienvenue à tous les gourmands. Votre marché Aligro à Matran vous présente... Le 10-14 de l'été.
Heureusement que vous n'êtes contrôleur aérien.
Oui, on se sent mieux. Oui,
on aurait des imprécisions.
Absolument, ça on ne peut pas se le permettre. On parle de la Gordon Bennett aujourd'hui, édition 2016, qui prendra son départ le 16 septembre du côté de Gladbeck en Allemagne, avec notre équipage fribourgeois, Fribourg-Freiburg Challenge, qui vont bien sûr essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Qui sait, pour remporter cette Gordon Bennett, on l'espère, hein, l'an passé, on n'était pas loin. On a vécu ça jusqu'à la fin, jusqu'à la DER, hein, Jacques-Antoine. Jusqu'à la DER, on pensait que c'était encore possible de remporter l'édition 2015.
Ouais, effectivement.
C'était du chaud de la braise, j'ai trouvé un moment, hein, franchement, parce que là, ça s'est joué sur quelques kilomètres, et puis sur plus de 2000 kilomètres, avec plus de 70 heures de vol, donc effectivement, c'était très serré. Quoi.
Absolument.
Voilà, c'est le jeu,
c'est comme, ouais. C'est comme ça, on verra cette année ce que cela va donner avec nous ce matin, Jacques-Antoine Bénard, qui est le responsable et le chef du PC Course, hein, qui est installé à la BCF Gallery, la Safe Gallery précisément, où là vous avez toutes les unités de pilotage pour pouvoir finalement driver les pilotes, enfin leur donner les indications nécessaires, que ce soit bien, que ce soit au niveau météo, que ce soit au niveau justement de l'espace aérien, hein, grâce aux contrôleurs aériens, et puis la stratégie, bien sûr, le routing, les choix qui sont toujours assez fins et parfois même assez, j'allais dire, tendus, parce que c'est vrai que ben, il faut se mettre d'accord aussi, hein, je crois que ça est, c'est important, il faut parler d'une seule voix aussi pour que les pilotes puissent véritablement jouir d'informations et se sentir aussi en confiance.
Ouais, c'est clair, il faut bien penser que nous, on doit se mettre vraiment aussi à la place des pilotes. Hein. Il y a tout l'aspect physique des pilotes. Il faut savoir qu'au bout de 48 heures, dans un mètre carré, moins d'un mètre carré, à deux, la fatigue, peu dormir, donc du sommeil, etc. Le stress de la météo qui vivent sur le moment, etc. Tout ça, nous, on doit le prendre aussi en compte dans notre stratégie et puis dans nos conseils qu'on peut leur donner. Mmh. Franchement, c'est vraiment se mettre à leur place et puis essayer de les mettre au meilleur endroit, au meilleur moment, tout en négligeant pas tous ces aspects. Contrôle aérien, espace contrôlé, espace interdit, donc tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. c'est pas que des météorologues, que des contrôleurs aériens, c'est vraiment, on est une dizaine, quinzaine de personnes dans ce PC course où vraiment on collabore vraiment tous ensemble.
Ouais, pour donner les meilleures indications possibles aux pilotes et les amener le plus loin possible, hein. Et c'est vrai que la nacelle est toute petite, hein, 1 mètre carré, à deux, sous-entendu en plus avec des moments où il faut dormir, il faut se reposer, donc étendez-vous dans 1 mètre carré, c'est pas toujours évident. Hein. Non, je crois que là, ils ont trouvé des solutions aussi.
Ouais, il y a un peu les pieds qui pendent dehors.
Il y a les pieds qui pendent dehors, parfois. Donc, ce sont des conditions quand même assez extrêmes. Oui, sans parler de la nourriture aussi.
Ouais, hein, donc, c'est clair que c'est pas des... ils peuvent pas emmener beaucoup de nourriture, parce que c'est pas des grands repas qu'ils peuvent faire. Donc, il y a passablement de nourriture légère, un peu utilisée, voilà.
Puis, exactement.
C'est la course au poids aussi, donc il faut tout rationner.
Exactement. Il faut que le ballon soit le plus léger possible avec les pilotes, bien sûr. On reviendra sur le PC course. Juste un mot encore sur justement cet espace aérien, le contrôle aérien. Gladbeck, c'est en Allemagne, un des plus grands aéroports du monde, hein, même pourrait-on dire. Je crois que c'est Francfort, si je ne me trompe pas.
Oui, il y a du monde.
Il y a du monde, en tout cas, à Francfort. Et Francfort, bah, c'est un aéroport ou un espace aérien autour de cet aéroport qu'il faudra peut-être franchir. Ce qui avait été fait l'an passé, hein, de manière assez remarquable.
Oui, l'année passée, ça s'était extrêmement bien passé. Et ça résume aussi assez bien ce que j'ai dit avant. Donc, quand on les a appelés pour savoir si déjà c'était possible, parce qu'on essayait de tout faire pour éviter Francfort, mais à chaque fois, on revenait dedans. Donc, on les a appelés. Au début, on devait passer de nuit. Donc là, aucun souci, parce qu'il n'y a pas de vol de nuit. Donc, on s'est dit, super. Après, on devait passer vers midi, je crois. Donc...
Ouais,
là, ils nous ont juste
rush,
dit bah, merci pour l'update, on en tient compte. Et puis pour finir, on est passé vers 8h du matin. Donc, puis là, donc, de base, c'était OK. Uh-huh. Ils ont tout de suite dit pas de problème. Quel niveau? Ils voulaient savoir le niveau. Ça, c'est très, très important pour savoir si on coupait les trajectoires d'approche des avions. Si on avait été plus bas, c'était non. Uh-huh. Et puis là, on avait une altitude qui permettait de bien passer. Et il n'y a eu absolument aucun problème. Quoi. C'était vraiment c'était génial. Mais il y a.
Mais c'est quasiment, enfin, j'allais dire une première, c'est extrêmement rare de pouvoir passer avec un ballon sur un aéroport tel que celui-ci.
Oui, ça ne doit pas se faire très couramment, puis là aussi, il y a l'effet course, je pense. Donc il y a aussi un petit effort qui est fait du contrôle aérien, parce qu'ils savent que c'est une course, donc ils vont essayer de mettre le moins possible de bâtons dans les roues, si on peut dire ça d'un ballon à gaz. Mais il y a aussi un petit effort qui était là, puis là, il y avait vraiment une, je pense, de leur côté, une volonté de bien faire. Et c'est toute la traversée de l'Allemagne a été faite au niveau optimal, optimum pour le ballon. Mmh. Donc, dès qu'ils ont voulu changer de niveau, ils ont demandé l'autorisation qui était accordée. Donc, c'était vraiment, on peut pas faire mieux que le service qui était fourni par mes collègues allemands l'année passée, quoi. C'était génial.
Ça veut aussi dire que les pilotes, lorsqu'ils ont survolé cet espace aérien, voyaient à gauche, à droite des avions. Enfin, ils étaient entourés, en quelque sorte. En haut, en bas, peut-être.
Et ils sont passés à la verticale de l'aéroport de Francfort. Donc, ils nous ont dit qu'il y avait des avions partout, quoi. Ouais. Pas là, en tant que contrôleur aérien, j'aurais bien voulu être dans le ballon.
Ça doit être assez ouais. surprenant. Hein. Et là, une fois de plus, c'est ce que tu disais, Jacques-Antoine, c'est quand même lié. Alors, bien sûr, il y a les autorisations, il y a tout l'aspect très formel, mais il y a aussi ce relationnel, cet aspect humain, cette capacité que tu as eue, Philippe, ou d'autres, de discuter avec les contrôleurs aériens.
Donc là, c'est clair que ce soit mes collègues ou moi, ça c'est complètement égal, mais on s'est adressé directement au chef de salle. Première chose qu'il nous a dit, c'est « Oui, on sait très bien, on vous suit sur Internet. Oh, » bah déjà, là, c'est bon, il sait de quoi on parle. Et puis après, directement, c'est possible de passer Francfort tel niveau, telle heure. Oui, ok, super. Quoi.
Bon.
Mais ouais, ils suivaient la chose, ils avaient été avertis, ils avaient vu qu'il y avait deux ou trois ballons qui s'approchaient d'eux, donc ils s'attendaient certainement à les avoir tôt ou tard en contact. Et puis vraiment, le fait de les appeler, on les avait appelés vers 6h le soir, je crois, pour le lendemain matin. Pour déjà poser la question, est-ce possible ou pas de passer? Parce que moi, quand on m'avait dit le jeudi, on va passer par Francfort, je leur avais dit non, vous faites le tour, vous passez par autre chose, c'est pas possible. Et puis, simplement prendre le téléphone, poser la question, et ça avait pas mal aidé.
Et ça, c'est une route, Jacques-Antoine, qui simplifie quand même les choses, plus directe aussi, qui permet de faire de l'avance. Et...
Alors, non seulement c'est déjà une route, mais en fait, on la choisit pas trop, hein, parce que si on regarde le vol de l'année passée, tous les ballons passaient un peu par là. Alors, après, plus ou moins au nord ou plus ou moins au sud, mais nous, la route qu'on avait prise dès le départ nous amenait
directement
sur Francfort. Comme disait Philippe, on a tout fait pour... avec les météorologues, pour travailler les altitudes, pour essayer de passer au nord ou au sud, mais c'était impossible. Quoi. Chaque fois, ça nous ramenait sur cet aéroport, et au bout d'un moment, c'était soit il nous laisse passer, soit la course est finie pour nous. Hein. C'est clairement ça. Quoi. On n'a pas le droit de tricher avec ça. D'ailleurs, si on n'a pas l'autorisation qu'on passerait, non seulement ça peut être hyper dangereux, mais en plus, on est disqualifié. Donc, inutile de continuer.
Oui, puis j'imagine qu'il peut y avoir encore d'autres conséquences.
Ah oui, il y aurait plus de conséquences.
Ça peut être une course, il y a des choses à respecter qui vont au-delà même de la course. Cette année, donc, qui sait, ça pourrait être encore... j'allais dire une option, on parle pas d'option maintenant, mais Francfort reste un aéroport qu'il serait possible de survoler.
S'ils partent vers le sud, on y est. S'ils partent vers l'ouest, on est directement dans Amsterdam.
Un autre aéroport, ouais, sympathique.
Que des sources à côté. Ouais.
Vous allez encore bien rigoler cette année, façon de parler, hein, parce que c'est vrai que, indépendamment de ça, il y a bien sûr de la tension nerveuse aussi hein, durant la course, mais il y a quand même, maintenant je crois qu'on peut y revenir aussi, une super équipe qui s'entend extrêmement bien et qui fait que les choses se passent de manière la plus harmonieuse ou la plus facile possible.
Alors, je pense effectivement, nous on a clairement une superbe équipe, on s'entend bien. Il y a, tout en étant très sérieux, c'est très amical, c'est très copain, ça blague aussi souvent. C'est important, je pense, qu'on ait ce mélange de gars. On ne se connaissait pas à la base, ou pas tous, ou peu. Et puis, ça a vraiment créé des liens d'amitié. Et franchement, on a tous vraiment du plaisir à se revoir, même hors compétition, hein, souvent. Mmh. Et c'est hyper intéressant de travailler avec des gens comme ça, qui sont tous, entre guillemets, des professionnels dans leur domaine. Hein. Mmh. Autant les météorologues, autant les aiguilleurs, autant nous qui faisons un peu une stratégie avec Yannick, qui sommes des pilotes aussi, en fin de compte. Hein. Donc, on sait de quoi on parle quand on décide de quelque chose.
Ouais, alors au PC Course, on l'a dit, hein, il y a des météorologues, il y a des aiguilleurs du ciel, il y a des informaticiens hein, aussi.
Absolument.
C'est important, ouais. Il y a toute une logistique et toute. C'est assez complexe hein, sur ce plan-là, et je crois que ça, c'est important aussi d'avoir une sacrée équipe de ce point de vue-là.
Ah ouais,
des informaticiens, des gens qui maîtrisent aussi hein, tous les outils. Et puis après, il y a la stratégie, quoi. Et tous ensemble, vous formez cette équipe qui permet au ballon de voler au mieux.
Hein. Exactement. La stratégie, elle est vraiment définie, encore une fois. Je me répète un peu, mais c'est vraiment un travail d'équipe avec autant les météorologues, autant les aiguilleurs et nous et tout le monde, quoi, en fait.
Ouais, et ça peut changer aussi assez rapidement, hein, cela dit.
Sûrement, les infos des pilotes.
Stratégie.
Exactement, parce que aussi, les pilotes vont nous donner des infos que peut-être que nous, on aura ratées ou qu'on ne voit pas forcément en direct. Donc, ça peut changer aussi la route. Donc, il y a. Tous ces détails doivent être pris en compte et après, on fait une boule de neige et puis on l'envoie.
Ouais. L'équipe est la même que l'an passé, à peu de choses près ?
Oui, c'est la même.
Ouais. Ouais. Tout le monde était partant.
Oui, tout le monde est partant, ouais. C'est clair.
Bon, et je rappelle que vous passez aussi du temps, hein. C'est je sais pas, 3-4 jours, 5 jours peut-être, dans un espace quand même un peu confiné comme ça. en sous-sol.
Ouais. Et puis il y a la préparation, hein. Faut pas oublier qu'il y a toute une équipe aussi qui suit le ballon, hein, qui le gonfle, qui s'en occupe comme un bébé au départ, puis qui va le récupérer. Donc c'est 5-6 personnes qui s'occupent de ça, c'est du boulot. Puis il n'y a pas que la course, il y a les vols d'entraînement, hein. Ils ont passablement bossé là-dessus aussi. Et puis voilà, quoi, il y a la préparation, puis tout le développement qui sont faits avec les écoles polytechniques aussi.
Aussi, hein, parce que bien sûr, c'est un terrain de jeu pour l'innovation, pour essayer de mettre sur pied des nouveaux concepts. On travaille sur des logiciels, on fabrique des nouveaux logiciels aussi. Alors là, on n'en parle pas beaucoup, j'en parlerai peut-être un peu avec les pilotes qui viendront. Hein. On est de toute façon dans l'innovation, mais il y a encore des choses qui sont en train d'être mises en place, qui ne seront pas forcément prêtes pour cette édition. Et puis après, il y a aussi, le secret qui entoure un certain nombre d'innovations. Je pense que ça fait partie du jeu aussi.
Ah, exactement, ouais.
Ne pas trop dévoiler de choses, parce qu'on nous écoute. Ça.
Voilà.
Là, il y a les 22 équipages qui sont en train de nous écouter et dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils racontent, ceux-là ? Bon, jusque-là, on n'a rien dit de particulier. Non. Tout va bien. Je rappelle qu'il y a bien sûr un site sur lequel vous pouvez aller en tout temps glaner des informations, regarder comment les choses évoluent. Hein, c'est www.frchallenge.ch. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, un Facebook qui est extrêmement bien aussi animé. Je crois qu'on est à 7000 à peu près, 7000 fans. Hein. On aimerait arriver à 8000 pour la course, pour le début de la course. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux également. Et puis, il y a la possibilité aussi de visiter le PC Course pour autant que vous ayez une invitation. Et pour ce faire, on va juste faire un petit concours avant de partir en musique quelques temps. Un petit concours qui vous permettra d'aller effectivement rendre visite au PC Course, voir un petit peu comment les choses se passent. Évidemment, c'est aussi, j'allais dire, assez exceptionnel par le fait que vous n'aimez pas trop être dérangé. Hein, si tout le monde passait tout le temps au PC Course, c'est quand même un endroit stratégique, un endroit où vous devez plus ou moins travailler dans la tranquillité, dans la quiétude, on va dire, Jacques-Antoine.
Oui, et puis surtout, ça ne nous dérange pas d'avoir des visites, au contraire, ça nous fait même plaisir, parce que quand au bout de 3-4 jours, exactement, ouais. Ça nous change un peu. Par contre, on ne peut pas venir n'importe comment, n'importe quel instant, parce qu'il y a des moments qui sont, comme tu l'as dit, beaucoup plus tendus que d'autres. Il y a des moments où vraiment, on doit être tous hyper concentrés sur notre job, parce que c'est des moments clés de la course. Et autant ça peut changer la donne, ça veut dire la gagne ou la perte, mais ça peut aussi, et c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est en fait l'accident, hein, l'incident qui pourrait arriver ou les problèmes techniques qui pourraient arriver si on ne gère pas ce genre de problème. Mmh. Donc on ne peut pas venir n'importe comment, mais normalement avec les personnes qui nous entourent aussi, qui nous aident au PC Course, c'est très bien géré. Il n'y a pas eu de soucis les autres années, il n'y en aura pas cette année, donc tout le monde peut venir plus ou moins, mais ce sera déterminé avec des moments...
Avec des moments clés, hein, avec des moments définis. Et pour ce faire, justement, on vous offre quelques invitations, hein, 5 places pour aller visiter ce PC Course durant la course, bien sûr, hein, entre le 16 et le 18 septembre. Alors ça, les indications vous parviendront par la suite. 5 places fois 2, hein, vous pourrez venir à 2. Et pour ce faire, Amaël... On
envoie un WhatsApp.
Le WhatsApp.
S'il vous plaît, au 079 127 70 60. 079 127 70 60. C'est notre numéro de WhatsApp et vous notez comme nom de code quoi, Gordon Bennett ?
Allez.
Hein ?
Facile.
On dit ça ? Et
Gordon
puis,
Bennett.
Vous n'oubliez pas votre nom, votre prénom.
Et d'autres indications ? Non. C'est tout. Nom, prénom.
Ouais.
Bon, c'est aussi simple que ça. Ça, quand même, les choses, hein, quand elles sont trop simples, ça nous complique l'existence. Ça nous perturbe. Voilà, 5 places pour aller visiter le PC Course durant cette course, durant l'édition 2016 de la Gordon Bennett. 5 places plus 5 accompagnants. Donc, vous pourrez venir accompagner. Et nous, on repart en musique. Toujours des choix qui sont liés un petit peu au vol, à cette atmosphère particulière de cette course et de cette compétition de ballon à gaz.
Voici donc Wiz Khalifa avec Fly Solo. I had a dream that the whole world was staring at me. I woke up and wasn't no one there. Wasn't no one there. Yeah. Same song to a different beat. Cause really sometimes I feel like I'm the only one here. I guess nobody cares. Hey, but everything's good till it goes bad. And you won't tell all the people about the fun you used to have. When it don't last, no easy way saying bye. So I'ma spread my wings, head for the sky. And I fly so low. 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 I had a dream that the whole world was staring at me.
Khalifa sur Radio FR, toujours dans cette émission consacrée à la Gordon Bennett et à l'édition 2016 qui prendra son envol le 16 septembre du côté de Gladbeck en Allemagne. C'est au milieu de l'Allemagne, hein, Philippe, je crois, plus ou moins.
Oui.
Un petit peu.
Milieu, nord-ouest.
Nord-ouest, voilà, il faut être précis, hein, avec les contrôleurs aériens, les météorologues et aussi les gens qui définissent la stratégie. Je vous rappelle que cette course est une course, bien sûr, de ballons à gaz. Ce sont, pourrait-on dire, les championnats du monde. Hein. Ça existe depuis 1906. C'était la première édition de la Gordon Bennett. Et depuis, ça se fait plus ou moins chaque année. Il y a eu des interruptions pendant la guerre. Enfin, il y a eu pas mal de périodes où on n'a pas pu véritablement faire cette course. Mais là, c'est reparti. Et je vous rappelle surtout que l'an prochain, en 2017, cette course s'organisera ici, à Fribourg, à Épagny, hein, plus précisément, Philippe. Et ben là, ça va être aussi un gros morceau. Et là, les Fribourgeois se devront gagner cette fois-ci. Hein. Ouais, on met la pression un petit peu comme ça.
Ouais, effectivement. Non, je pense qu'effectivement, déjà, le spectacle sera fabuleux parce que partir dans la Gruyère, là, au pied du château, aérodrome d'Épagny. Plus de 20 ballons qui décollent comme ça de nuit, je pense que ça va être un spectacle qu'il ne faut pas rater. Quoi,
absolument. Oui, alors pour l'avoir vécu l'an passé, c'est vrai que le décollage, le démarrage de la course est quelque chose d'assez fabuleux. Les ballons partent les uns après les autres. Il y a toujours une petite cérémonie, l'hymne national, le ballon s'envole dans les airs. Si ça se trouve, il y a encore de la lumière, des projecteurs, etc. Donc ça donne un petit côté quand même assez sympathique. Et puis surtout, c'est émouvant parce qu'on voit que on sait que les pilotes partent, mais on ne sait pas pour combien de temps. Hein.
Oui, puis on ne sait pas où on va. Puis
on ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas quand ils reviendront. Donc ça aussi, ça fait partie de la course. Hein. On parlait d'incident tout à l'heure. Il y a quand même cette notion de danger, même si c'est quand même relatif et limité. Mais il y a quand même un peu de tension hein, aussi liée à ces vols, qui ne sont pas des vols excessivement simples et faciles.
Non, effectivement. Donc ce n'est pas pour rien que c'est le championnat du monde. Hein, donc... Les pays qui des autres continents, des autres pays qui viennent chez nous ou qui viennent ici pour voler, ils viennent pour gagner. Donc c'est clair que les limites sont toujours un peu poussées, dans certaines limites, hein, on a quand même pas joué trop loin, mais ça reste de l'aviation, ça reste terrain de jeu que voilà où tout incident peut arriver, puis il va falloir les gérer si ça arrive au fur et à mesure. Donc c'est pas anodin, donc effectivement mais c'est la course, c'est comme ça.
Absolument. Je me souviens de l'année passée, il y a eu à un moment donné des orages sur certaines zones hein, dans laquelle se retrouvaient un certain nombre de concurrents, et on en a même vu un qui manifestement a passé à travers les orages, et là aussi c'est quelque chose d'assez tendu et qui peut s'avérer dangereux aussi.
Alors, tout à fait, ça peut... C'est vraiment le truc
qu'on évite
quoi, parce que nous, franchement, c'est pas notre copain, les orages. Mmh. C'est un truc je pense qu'on va toujours éviter. C'est clairement dangereux, c'est pas compatible avec l'hydrogène, etc. Donc, puis même les vents, hein, aux abords des orages, ça peut être des bourrasques très violentes où les pilotes pourraient pas, pourraient plus diriger le ballon, puis plus le piloter carrément.
Ouais,
ça devient clairement dangereux, donc non.
Ouais, évitons. Et ça fait partie aussi de ce que vous vivez, vous, au PC Course, hein, et de la stratégie, et aussi des tensions hein, qui peuvent arriver lorsqu'on voit que la météo est en train de se dégrader. Hein, donc, changer de route au plus vite, être réactif avec quand même un ballon qui n'est pas un avion, hein, donc qui ne se pilote pas comme un avion, et qui est quand même dépendant des vents et de la météo, hein, tout simplement.
Ouais, c'est clair. Alors ça, c'est vraiment nous, on peut y changer l'altitude, hein, ce ballon. Et puis, ce sera uniquement les courants qui vont le faire tourner plus au nord, plus au sud de sa route. Mais on n'a pas 360 degrés de marge comme un avion qui, au bout d'un moment, arrive dans un orage et puis peut faire demi-tour. Nous, ce n'est pas possible. Ouais. On va soit pouvoir un peu le contourner, l'éviter, ou il va falloir poser, comme tu l'as dit précédemment, des équipages qui se sont retrouvés un peu sur le nord de la France, qui étaient trop aux abords des orages, ont préféré... à juste titre de poser leur ballon plutôt que de s'enfiler sur la mer au milieu des orages.
Ouais. Et puis, alors, pour ce qui est des aiguilleurs du ciel, la météo étant aussi le facteur, un des facteurs principaux, bien sûr, hein, pour la course en soi, vous devez aussi être, vous, même si vous arrivez à préparer un tout soit peu, hyper réactif. Généralement, est-ce qu'il vous arrive de devoir appeler quelqu'un, je ne sais pas, une heure avant le passage de l'avion, parce que tout d'un coup, il y a eu un changement?
Donc vous dites en règle générale avec les avions qu'on peut diriger, c'est ça?
Oui.
Alors pas une heure à l'avance, c'est chaque avion a un radar météo à bord qui est beaucoup plus précis que ce qu'on a au sol. Et c'est le pilote qui va nous dire, là, on peut pas passer, on doit tourner à droite, on doit tourner à gauche. Nous, ce qu'on peut prévoir à l'avance, c'est si justement il va y avoir ces nuages de mauvais temps. Et dans ces cas-là, on prévoit une baisse de capacité. Donc, on prend moins d'avions à l'heure parce qu'on sait qu'il y aura plus de travail à faire sur ces avions. Donc, oui, ça arrive quand il y a des orages qui se développent, par exemple, sur le Jura ou dans les Alpes, où il n'y a plus aucun avion qui vole sur sa route. Donc, il y a des avions qui n'étaient pas censés passer par chez nous qui passent. Nous, on envoie des avions qui sont chez nous dans des secteurs où ils ne sont pas censés aller. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail en plus.
Ouais, beaucoup de coordination.
Mais c'est vraiment, ça se fait sur le moment. On peut prévoir une baisse de capacité à l'avance, mais on ne peut pas prévoir 2 heures à l'avance pour dire, il va passer par chez toi. Ça, c'est beaucoup trop à l'avance pour des avions de ligne.
Exactement. Et pour le ballon, alors, est-ce qu'on arrive à être...
On va de nouveau regarder ce que les météorologues nous donnent. On va éviter les orages. C'est ce qu'on a fait l'année passée, et puis c'est ce qu'on fera cette année si ça se représente. Donc, on ne va pas se retrouver dans cette situation. C'est beaucoup trop dangereux. Donc, je vois pas de problème à ce niveau-là. Ils sont très compétents, donc j'ai aucun souci. Donc, on va passer où on veut passer, à l'endroit où on veut passer, et puis je pense pas qu'il y ait d'orage. Mais si ça devait se passer, là, c'est vraiment les pilotes, s'ils sont dans un espace aérien contrôlé, ils seront en fréquence avec les contrôleurs, ils leur expliqueront le problème. Et puis là, mes collègues, sachant le danger que ça peut représenter, je pense pas qu'ils poseront beaucoup de problèmes.
Exactement. Je rappelle que vous pouvez toujours visiter effectivement ce PC course. Hein, je ne sais pas si tout est parti. Il y a encore quelques places. Il y a encore
2 x 2.
Toujours sur notre WhatsApp au
0 79 127 70 60. Notez toutes vos coordonnées
oui,
cette fois-ci.
Oui, alors
on a
notez toutes vos coordonnées effectivement parce qu'on vous écrira simplement pour vous communiquer le lieu, la date, l'heure, etc. Vous serez pris en charge et ce sera l'occasion aussi de vous voir vous au travail. Si vous avez un moment et que la période est un peu plus creuse, il y a aussi des périodes creuses. Hein, où il se passe pas grand-chose, poser des questions et puis regarder un petit peu comment les choses se passent. Hein, aussi bien du point de vue de la météo que des contrôleurs aériens, comme je le disais, des informaticiens et bien sûr la stratégie, qui se décide en commun, généralement. Tout le monde participe à ces décisions, Jacques.
Oui, tout à fait.
Jacques-Antoine. Alors,
c'est pas uniquement le météorologue, lui, il va nous faire une route, hein, ce qu'on appelle le routage. Il va dire, le ballon pourrait passer par là, etc. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y aura l'aspect des contrôleurs aériens, on va tenir compte, puis l'aspect humain, pilotage des pilotes, et puis l'état du ballon, la consommation, etc. Tout ça, ça fait un mixte. Et là, c'est vraiment commun qu'on décide, on propose, et puis après, c'est vraiment tout ce qu'on... On prend la meilleure décision. Quoi, là.
Ouais.
Celle qui nous paraît la plus judicieuse et la plus sécuritaire.
Cette année, vous êtes rodé aussi, hein, à peu de choses près.
Alors, rodé, non, je ne sais pas si on peut rodé, mais...
Vous êtes une équipe qui existe déjà.
Voilà,
vous connaissez un peu.
On n'est plus une nouvelle équipe, donc on se connaît bien, de mieux en mieux. On a bien vu l'année passée qu'on a très bien fonctionné tous ensemble. C'est pour preuve, le travail qu'ont fait les contrôleurs aériens pour traverser Francfort, je pense que c'est pas donné à toutes les équipes. Si on n'avait pas eu une équipe comme la nôtre, c'est pas sûr que tout le monde aurait pu passer à travers Francfort.
Oui, parce que la course se gagne aussi grâce aux équipes et aux PC Course.
Voilà,
etc.
C'est un tout.
Absolument. Je rappelle qu'il y a des gens qui travaillent déjà depuis un certain temps, ne serait-ce que pour les entraînements, etc., qui suivent les pilotes, qui sont avec eux, qui les soutiennent, qui les aident. Hein. Des gens qui seront là aussi pour les récupérer, à la fois pour gonfler le ballon sur place à Gladbeck, il y aura toute une équipe. D'autres qui repartiront et qui repartiront pour aller récupérer le ballon, sans savoir véritablement où le ballon ira. Donc il y a beaucoup de phénomènes comme ça, un peu aléatoires. Les gens se doivent d'être, quoi qu'il en soit, très impliqués, très souples aussi. C'est une aventure. Hein. C'est encore une aventure, ça.
Ben c'est ce qui fait le charme de cette course, hein. c'est qu'on ne sait pas en fait où on va. Puis je pense que c'est ce qui fait le charme vraiment de l'aérostation. Hein. On est tous un peu à la même. C'est ce plaisir de décoller de quelque part, mais on verra où on va.
Exact.
On ne sait pas. Puis c'est ça.
Je rappelle que vous pourrez suivre cette course aussi sur le net à travers à la fois le site de Fribourg-Freiburg Challenge, hein, www.frchallenge.ch, sur les réseaux sociaux, le Facebook de Fribourg-Freiburg Challenge, sur notre site radiofr.ch, puisque nous aurons aussi toute une partie du site qui sera consacrée à la course, avec aussi la possibilité de suivre en temps réel la course, pas en image, mais avec un logiciel qui vous permet de voir un petit peu comment évoluent les ballons. Et Et je vous rappelle également que la télé sera sur place et que vous pourrez aussi voir des images en direct du décollage. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un grand moment, aussi un moment d'émotion, la plupart du temps, à suivre donc sur la télé le 16 ou le 17 septembre. Le 16, c'est le décollage se fait le 16, je crois. Hein, le samedi, alors, je ne veux pas dire de bêtises, ce sera samedi, hein, quoi qu'il en soit. Ou vendredi.
Non, le vendredi. Vendredi, c'est le vendredi 22h. Donc vendredi, la nuit 22h. De vendredi à samedi, mais les premiers départs sont possibles à partir de 22h. Puis ensuite, c'est en fonction, c'est le directeur de course qui décide en communauté avec les pilotes pour l'heure de départ.
Très bien. Eh bien, on est au terme de cette émission. On en reparlera avec les pilotes qui viendront juste avant de rejoindre Gladbeck. Je vous remercie en tout cas d'être venu, Philippe Jex, Jacques-Antoine Bénard. Vous êtes au PC Course et puis on vous retrouvera bien sûr durant cette édition. Bonne journée et à bientôt.
Merci, bonne journée.